Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite sur RTL, la légende du roi Arthur. Bonjour Alban Gauthier.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes historien, professeur à l'université de Caen, Normandie. Alors grâce à vous, on va remonter à l'origine, voir si qu'il n'est pas facile de dire si le roi Arthur a ou non existé. Ça, on annonce la couleur, hein. C'est la réponse à cette question est quasi impossible. Mais d'abord, en quelques mots, on pose le décor. C'est quoi la légende? Qu'est-ce qu'on raconte quand on parle du roi Arthur?
Ben, on raconte plein de choses différentes. C'est ça le problème, c'est que quand on raconte l'histoire du roi Arthur, selon la version que l'on choisit de lire ou de regarder, s'il s'agit d'un film, l'histoire n'est pas exactement la même. Mmh. Il y a des dizaines de versions différentes.
Alors si on pose les personnages les plus connus, il y a qui? Il y a Merlin,
le roi Arthur. Lui-même.
Oui.
Il y a parfois Merlin, il y a parfois son épouse Guenièvre.
Oui. Il y a des copains aussi, des chevaliers,
ouais,
non?
Les chevaliers de la table ronde. Ah. Pas dans toutes les versions, là encore, parfois.
Il y a une table ronde?
Pas toujours.
Ou carré? Ah non, d'accord.
Pas toujours.
Il y a une épée, comment elle s'appelle déjà?
Il peut y avoir l'épée Excalibur.
D'accord, ok.
Il peut y avoir le palais de Kaamelott ou d'autres palais. Mmh. Le point commun, je dirais, c'est que ça se passe dans le monde que, dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, on appelle la Bretagne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne actuelle. C'est à peu près le seul point commun entre toutes les versions.
Oh bah s'il y a un peu de Bretagne, moi je reste. Hein. Un roi, des chevaliers, une table ronde, une épée magique, un Graal ayant contenu le sang du Christ.
Ah oui,
on
aussi,
vous révèle d'où vient ce récit. Et pour ça, on remonte loin dans le temps. Reste avec nous sur RTL.
RTL.
Viens voir ce que j'ai trouvé. Quelque chose est écrit sur la garde. Regarde dans Google Traduction.
Ça veut dire épée d'Arthur. Excalibur. L'épée dans la pierre.
Alexander Elliot, c'est toi qui as sorti l'épée.
Sidonie Bonnec.
Ce royaume court un danger mortel.
Thomas Huc.
Il reste 4 jours jusqu'à l'éclipse solaire. Alors Morgane entrera dans le monde des vivants.
La curiosité est un vilain défaut.
La bande-annonce du film Alex, le destin d'un roi, qui sort le 10 avril, dans lequel un écolier anglais retrouve Excalibur et sauve la planète, au moins, hein, il faut bien ça, avec l'aide de Merlin l'Enchanteur. Le roi Arthur, voilà, la preuve, inspire encore une fois le cinéma. Alban Gauthier, je rappelle que vous êtes historien, professeur à l'université de Caen, Normandie. Alors, évidemment, à chaque fois, il y a la version légendaire et la version basée sur peut-être quelques recherches historiques, mais on va essayer à chaque fois de dire ce que la légende nous laisse entendre. Par exemple, cette épée Excalibur, quels sont ses supposés pouvoirs?
Ouh, ça dépend là encore énormément des versions. Au Moyen-Âge, dans les premiers textes, hein, dans les tout premiers textes, c'est tout simplement un objet parmi d'autres qui appartient au roi Arthur. On a la liste de ses armes. Il a un arc, il a une hache, il a un bouclier qui ont chacun un nom. Parmi ses possessions, il a une femme qui s'appelle Guenièvre. Donc vous voyez.
Ah oui, c'est comme ça, d'accord.
C'est très féministe, le Moyen-Âge. À partir.
Et donc une épée.
Et il a une épée qui s'appelle Caledwur en gallois.
Et qui veut dire quoi, Excalibur, quand on traduit ou?
Ben, Excalibur, c'est la forme qu'ensuite le nom a pris en latin puis en français.
Et ça veut dire quelque chose, d'ailleurs?
C'est bien possible, mais alors je ne connais pas assez le gallois pour vous donner la réponse.
Elle est magique.
Ben, pas nécessairement.
Ah non, c'est-à-dire elle rend celui qui la possède différent, elle lui donne une confiance, un pouvoir.
Disons qu'à partir du XIIe siècle, ça devient l'objet d'Arthur par excellence. C'est l'objet qui lui donne la souveraineté. Et donc, ensuite, mais alors, à mon avis, pas avant le 19e, 20e siècle, cette épée est représentée comme un objet magique. Mais avant, non, elle n'est pas particulièrement magique. C'est un bijou de la couronne, d'une certaine manière. D'accord. C'est un objet qui assure la souveraineté. Mmh. Voilà. Mais parmi d'autres, hein.
Alban Gauthier, grâce à vous et au livre que vous consacrez au roi Arthur aux presses universitaires de France, on va tenter de savoir s'il a vraiment existé, ce roi Arthur. Déjà, où et quand le nom d'Arthur est mentionné pour la toute première fois?
La toute première mention datée du roi Arthur, c'est vers 830. Dans un texte en latin du Pays de Galles qui s'appelle l'Histoire des Bretons. Un texte qui raconte l'histoire des Bretons, c'est-à-dire des habitants de la Grande-Bretagne. Sous une forme qui leur donne le beau rôle, disons, hein, qui les présente comme des héros, comme des gens qui ont toujours su résister aux envahisseurs, qui ont résisté aux Romains, qui ont résisté aux Anglo-Saxons.
Et quelle place il a, le roi Arthur, dans tout ça?
Le roi Arthur est un héros parmi d'autres, est un personnage qui remporte de nombreuses victoires contre les ennemis par excellence des Bretons, qui sont les Anglo-Saxons, les Anglais d'aujourd'hui. Voilà. Et donc il remporte 12 victoires, dont on a les noms. Mais c'est un récit qui est extrêmement court, hein, qui fait à peu près une page.
La première référence datée, c'est une page, quand on sait toute la littérature que la légende d'Arthur a pu provoquer.
Une page, et puis alors un peu plus loin dans l'œuvre, une autre page où l'auteur, qui est anonyme, nous raconte que cet Arthur est associé à des sortes de légendes, de choses un peu fabuleuses, de merveilles. On nous raconte par exemple que son chien, qui s'appelle Cabal, a imprimé la marque de sa patte sur un amoncellement de pierres dans le sud du Pays de Galles. On nous raconte, mais ça fait trois lignes, on nous raconte que son fils, Hammer, a un tombeau, et que quand on va mesurer son tombeau, on ne trouve jamais la même longueur. Voilà.
Ça veut dire que ces histoires vont infuser dans la population, et par exemple, les parents vont raconter ça à leurs enfants avant de dormir, par exemple.
C'est probablement une chose folklorique, disons. Ouais. Hein, des histoires qu'on racontait au Pays de Galles.
Mais ce qui est passionnant, Alban Gauthier, c'est que dès le début, dès ce tout premier récit, il y a les deux dimensions d'Arthur. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, on va le définir comme un guerrier qui a remporté une victoire, et de l'autre, on est dans un monde fantastique. Et ça, on va le garder tout au long des récits de la légende arthurienne, comme on dit.
Tout au long, et je dirais même que dans ce premier texte, il est présenté comme un guerrier qui remporte des batailles, mais en plus, il est présenté comme un guerrier qui a existé à un moment précis de l'histoire, c'est-à-dire vers 500.
À quelle époque ? 500.
Vers 500.
Ouais.
Mais le problème, c'est que cette période de l'histoire, entre 400 et 600 en Grande-Bretagne, on ne sait pratiquement rien sur ce qui s'est passé. On n'a pratiquement aucun texte écrit, et aucun des textes que l'on a conservés ne mentionne Arthur.
Et donc aucun moyen de vérifier
de vérifier s'il a existé ou non. C'est-à-dire, c'est bien ça le problème. C'est que un historien, ça travaille avec des sources, avec des textes ou avec des sources archéologiques. Enfin, ça a besoin de matériaux pour écrire l'histoire. Et les matériaux dont nous disposons vers 500, il n'y en a aucun qui nous mentionne Arthur. Donc on ne peut pas vérifier s'il a existé ou non.
Donc on ne peut pas dire il a existé ou il n'a pas existé.
À mon avis, non. À mon avis, c'est impossible de trancher.
Eh bien voilà, mais on va quand même continuer de découvrir. Parce que ce personnage va devenir un héros de la littérature et aujourd'hui de toutes les formes de fiction. C'est même l'un des premiers best-sellers de l'histoire au XIIe siècle. Voilà ce qu'on va vous raconter dans un court instant sur RTL.
14h-15h.
C'est un héros légendaire issu d'un passé lointain. Un noble souverain à une époque où régnait le chaos et la mort.
RTL.
Son nom, le roi Arthur. La curiosité est un vilain défaut.
C'est un miracle. Opéré par le ciel. Ce garçon est notre roi.
Ça alors, par tous les diables.
Comment s'appelle-t-il ?
Moustique. Je veux dire Arthur.
Vive le roi Arthur !
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'Empire roi Arthur !
Le roi Arthur est-il une figure historique ou une légende ? On essaie de répondre à cette question dans la curiosité avec l'historien Alban Gauthier. Vous nous disiez que les sources directes d'une existence du roi Arthur sont absolument introuvables. Et pourtant, malgré tout ça, il va devenir une star au XIIe siècle. De quelle manière ?
Alors, au XIIe siècle, dans les années 1130, il y a un auteur gallois qui écrit en latin, qui s'appelle Geoffroy de Monmouth, qui a écrit une œuvre qui s'intitule « Histoire des rois de Bretagne » et qui, bien qu'elle ressemble à un ouvrage d'histoire, n'a pratiquement rien d'historique. C'est une sorte de gigantesque fresque qui imagine ce qu'aurait pu être l'histoire de la Bretagne, de la Grande-Bretagne, et l'histoire de ses rois.
Et donc il va broder à partir des quelques lignes dont on parlait tout à l'heure dans un premier récit publié au IXe siècle qui mentionne Arthur. Il va broder à partir de ça, il va lui donner de la consistance à ce personnage.
Il s'inspire de tout ce qui avait pu être écrit en latin, en gallois, tout ce qui pouvait aussi probablement être raconté, des choses orales qui ne nous ont pas été conservées. Et il raconte l'histoire du règne du roi le plus glorieux de toute l'histoire des Bretons. Ce roi, c'est Arthur. Et il nous donne même la date précise de sa mort, 542 après Jésus-Christ. Mais en fait, tout est faux, hein. Bien sûr. C'est totalement imaginé. Il réinterprète tout, il re-raconte tout, il réinvente tout.
Et pourtant, c'est l'acte de naissance du roi Arthur dans notre histoire.
Voilà, c'est l'acte de naissance parce que cet ouvrage a eu un succès phénoménal.
Est-ce que dans cet ouvrage, on trouve la présence de Merlin l'Enchanteur ? On entendait dans la mise en onde un extrait de ce dessin animé de Disney qui date de 1964. Alors pour que ça inspire un Disney aussi, c'est que ça a eu quand même un personnage incroyable.
En particulier dans le monde anglophone. Disney, oui. C'est le monde anglophone. Oui. Mais oui, Geoffroy est le premier à faire véritablement le lien entre Arthur, au sujet duquel on racontait des histoires au Pays de Galles, et Merlin, au sujet duquel on racontait des histoires au Pays de Galles. Mmh. Et il connecte les deux personnages. Il fait de l'histoire de Merlin un élément de l'histoire d'Arthur et vice-versa.
Et c'est qui alors Merlin l'Enchanteur ?
Alors Merlin...
Celui de l'histoire.
Celui de l'histoire, là encore. On n'est pas sûr qu'il ait existé, ouais. Bien évidemment. Dans les plus anciens récits, c'est un barde, c'est-à-dire un poète gallois, mais aussi un prophète. Quelqu'un qui prophétise l'avenir, qui dit ce qui va se passer et qui explique qu'un jour, à la fin des temps, les Gallois, les Bretons seront les vainqueurs de leurs ennemis héréditaires, les Anglo-Saxons, les Anglais. Mmh. Voilà. Et donc, Geoffroy connecte ces deux histoires et il en fait une histoire qui a un succès incroyable.
Oui, qui sera publié, traduit dans de nombreuses langues, publié un peu partout en Europe.
Un best-seller.
C'est l'œuvre non religieuse du Moyen-Âge latin pour laquelle nous avons le plus de manuscrits. C'est un succès phénoménal, immédiat. Dès la fin des années 1130, tout le monde se l'arrache et on a des traductions dans pratiquement toutes les langues d'Europe, des adaptations, des traductions en français, en anglais, en islandais, en norvégien, en italien, etc.
Vous racontez cette histoire à Alban Gauthier dans ce livre Le Roi Arthur, publié aux presses universitaires de France. Il faut dire qu'à cette époque, au XIIe siècle, on a aussi une appropriation de la légende d'Arthur par les chrétiens. C'est un outil de quoi pour les croisades. Alors, est-ce qu'on peut dire ça?
Je dirais qu'Arthur est chrétien dès le début. Oui. C'est-à-dire que dans cette œuvre dont je parlais avant, cette œuvre où il y a une seule page, au IXe siècle, il est déjà présenté comme un personnage qui porte l'image de la Vierge Marie sur son bouclier. Donc c'est véritablement un personnage chrétien. Mais cette dimension chrétienne est encore mise en avant de manière encore plus forte à partir du XIIe siècle. C'est par exemple à la fin du XIIe siècle, fin XIIe, début XIIIe siècle, qu'on raconte l'histoire du Graal et qu'on fait du Graal le vase qui a contenu autrefois le sang du Christ. Et qu'on connecte toute cette histoire à Arthur. En fait, l'histoire de la légende arthurienne, c'est perpétuellement des histoires que l'on raccroche, que l'on vient raccrocher à Arthur, comme si Arthur était une sorte d'aimant qui attire à lui de très nombreuses histoires et dont il devient le centre.
Le mythe d'Arthur, la légende d'Arthur, du roi Arthur a été utilisé, récupéré par les grandes dynasties royales d'Angleterre. Et dans un instant, sur RTL, on vous raconte comment notamment Richard, cœur de lion, a fait croire qu'il était tout simplement l'héritier d'Arthur.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est qui tous ces cons ?
Ah, bah, c'est ma visite de cet après-midi.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous arrivons à présent dans la salle du trône. Magnifique symbole de la puissance arthurienne. Cette pièce a entièrement été bâtie en pierre d'Irlande.
Mais c'est Perceval ? Seigneur Perceval, qu'est-ce que vous faites là ?
Bah, je fais la visite.
Mais la visite de quoi ? Vous vivez ici, espèce de crétin ?
Sur RTL. Non,
mais là, ils font voir des coins que j'ai jamais vus, moi. Il paraît qu'il y a votre tombeau. Ça doit quand même avoir de la gueule.
Voilà, le roi Arthur, s'il a existé, aurait vécu vers l'an 500. Mais aujourd'hui encore, c'est une star. La preuve, on le parodie dans Kaamelott. Et on essaye de comprendre comment il est devenu à ce point légendaire avec l'historien Alban Gauthier. Kaamelott, c'est un château, c'est ça, dans la légende arthurienne?
Oui, Kaamelott, c'est le lieu où se tient la cour du roi Arthur. Mm-hmm. Voilà, l'un des lieux dans certaines versions.
Et on sait s'il existait, ce château de Kaamelott, alors, du coup?
Ah, c'est un nom légendaire, inventé. À ma connaissance, il apparaît pour la première fois chez Chrétien de Troyes, un auteur français de la fin du XIIe siècle.
C'est lui qui a inventé aussi certains des personnages, des chevaliers qui entourent le roi Arthur.
C'est lui qui, par exemple, a mis en avant le personnage de Perceval, le personnage de Lancelot, le personnage d'Yvain. Voilà, effectivement, plusieurs des chevaliers qui sont vraiment caractéristiques de la cour d'Arthur ont été mis en avant par Chrétien de Troyes.
Et alors, ce qui est fascinant, c'est que ce personnage d'Arthur, il a ensuite été récupéré par les différentes dynasties du royaume d'Angleterre, notamment Richard, cœur de lion. Comment a-t-il cherché à prouver qu'il était l'héritier du roi Arthur ?
Alors, Richard Cœur de Lion est devenu roi d'Angleterre et duc de Normandie, seigneur d'une bonne partie de l'ouest de la France.
Oui, mais on n'a que jusqu'à 15h, on peut pas donner tous les titres.
Voilà. C'est pour ça. Sinon, ça va durer longtemps. En 1189.
Oui.
Et peu après, les moines de Glastonbury, l'abbaye près des ruines de laquelle aujourd'hui a lieu le festival de rock de Glastonbury, les moines de Glastonbury ont découvert la tombe du roi Arthur. C'est ce qu'ils ont prétendu. Hein.
D'accord.
Et dans la tombe, il y avait une épée. Et évidemment, cette épée a été identifiée comme Excalibur. Et cette épée semble avoir été envoyée à Richard, le roi d'Angleterre de l'époque, qui à l'époque était parti en croisade et qui se trouvait à cette époque en Sicile. C'était un moyen d'affirmer que l'héritier de ce grand roi d'autrefois, c'était le roi d'aujourd'hui, Richard Cœur de Lion. Alors, Richard, il en a fait un usage qui est à la fois très malin et qui montre que la légende arthurienne, c'était peut-être pas l'essentiel de ses préoccupations. Il avait besoin de bateaux pour continuer son voyage vers la Terre Sainte. Il était en Sicile, à Messine. Mmh. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a offert l'épée Excalibur au roi de Sicile, Tancred, en échange de bateaux. Ce qui montre que il se prétendait comme l'héritier d'Arthur, d'une certaine manière, bien sûr. Arthur était un personnage très populaire et donc c'était très prestigieux de recevoir son épée. Mais en même temps, avoir des bateaux pour continuer son expédition militaire, c'était quand même nettement plus important.
Et la table ronde, tiens, on l'a oublié, quand est-ce qu'elle a été intégrée? Puisque ce récit, cette légende arthurienne, vous nous l'avez dit, elle se compose et elle s'enrichit de siècle en siècle. Quand est-ce qu'on découvre la table ronde?
La table ronde, elle est insérée dans la légende par un auteur qui s'appelle Vass, qui est un auteur normand du milieu du XIIe siècle, qui est le premier à adapter en français le best-seller dont on a parlé tout à l'heure, l'histoire des rois de Bretagne, de Geoffroy de Monmouth.
Quel rôle elle a, cette table ronde?
Cette table ronde, elle symbolise le fait que le roi et ses chevaliers sont d'une certaine manière égaux les uns aux autres. Autour d'une table ronde, il n'y a pas de préséance. On ne peut pas avoir un haut bout et un bas bout de la table dans un repas. Hein, on est tous à égalité, on est tous frères, d'une certaine manière, autour de la table ronde. Et donc cette table ronde, elle symbolise l'esprit de chevalerie, l'esprit... Ça fait partie des éléments qui ont assuré le succès de la légende arthurienne. Elle répondait aux valeurs du temps, aux attentes du temps au XIIe siècle.
Merci beaucoup Alban Gauthier. Le roi Arthur, c'est donc le titre de votre livre publié aux éditions des PUF, des presses universitaires de France.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.